la rubrique culturelle L'air de rien, présentée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Nous allons aller en Géorgie en allant au musée Pierre-André Benoît à Alès pour découvrir un... Je ne sais pas comment dire, il a tellement de facettes. Pour découvrir Hildyard, qui est en exposition du 10 avril au 31-10. Et nous avons la chance d'avoir pour nous en parler Françoise Nicole. Bonjour Françoise.
Bonjour à vous, je suis contente d'être là et je vous remercie de me donner la parole.
On s'était déjà rencontrés pour Braque, pour l'exposition Braque.
Oui, en 2023.
Voilà, et là j'ai suivi votre visite de presse et je disais, je ne sais pas comment présenter Hildyard. Parce qu'il est poète, il est chercheur, il est archéologue, il est marcheur, il est typographe. Donc vous allez essayer, dans le temps que nous avons, de le présenter, puis surtout donner envie à nos auditeurs de venir voir ce musée, et puis ne pas oublier, puisque là, l'exposition est au rez-de-chaussée, au premier étage, d'aller ensuite au deuxième pour voir Pierre-André Benoît, dont on parle beaucoup dans l'exposition. Alors avant, je vous propose d'écouter la conservatrice du musée qui nous a présenté l'exposition. Donc, on écoute Carole Izard.
Donc, pourquoi cette exposition au musée bibliothèque Pierre-André Benoît? Eh bien, parce que nous sommes un musée bibliothèque, je le dis assez souvent pour que maintenant tout le monde le sache bien, et donc le livre et le livre d'artiste est au cœur de notre propos, évidemment avec Pierre-André Benoît et les différents dépôts de la Bibliothèque nationale de France. Mais néanmoins, jusque-là, vous avez vu, on a souvent travaillé les collaborations PAB, un artiste, avec des livres faits ensemble et puis des œuvres d'art. L'idée, là, c'est de faire un peu un pas de côté et de montrer le travail d'un autre imprimeur, éditeur, typographe qui travaille, alors, à peu près dans les mêmes décennies que Pierre-André Benoît, même s'il est un petit peu plus âgé. Et donc voilà, donc c'est, le livre reste au cœur du propos, mais nous faisons ce pas de côté vers Hildyard. Alors, on ouvre le champ. Pourquoi Hildyard? Pour deux raisons. D'abord, au-delà du fait qu'il a fait des livres d'artistes, je ne reprends pas. Première raison, c'est parce que Hildyard travaille avec des artistes qu'il a en commun avec PAM. Vous verrez Picasso, vous verrez Miro, vous verrez Survage, vous verrez Brienne, Camille Brienne, donc des artistes qu'on a l'habitude de voir au musée et finalement qui sont, qui ne travaillaient pas exclusivement, vous le saviez déjà, avec Fab, et donc ils ont travaillé avec plein d'éditeurs, dont Hildyard. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette parenté entre eux. Vous allez pouvoir sentir, percevoir la différence entre les livres avec PAB et les livres avec Hildyard. Normalement, de manière assez simple et évidente, vous allez voir que ce n'est pas le même travail. Ça va permettre de comparer, on va voir les aficionados, ceux qui viennent régulièrement et qui connaissent le travail, la patte de PAB. Et puis, ils se sont rencontrés. On a des photos d'Hildyard et PAB au même moment où ils travaillent à l'imprimerie Union à Paris. Et donc, c'est le moment où PAB compose un livre pour Dubuffet, et puis un livre avec Miro. Et donc, Hildyard est là aussi en train de composer. Oui, c'est Braque, c'est littéralement ça. Et donc, il compose en même temps, il travaille en même temps, et donc on a ces photos où ils se sont effectivement côtoyés. Alors, on ne peut pas dire que c'était grands amis à se recevoir le dimanche, comme c'était le cas par exemple avec Jean Hugo, enfin, il y a Braque. Il y a eu d'autres amitiés très fortes, mais professionnellement, ils se sont donc côtoyés à l'imprimerie Union à Paris, puisque PAB n'a pas tout réalisé, vous deviez déjà le savoir, sur sa presse personnelle, soit à Ribaud, soit à Rivière. Il a aussi parfois été à Paris pour bénéficier eh bien, du savoir-faire d'artisan typographe, pour pouvoir utiliser d'autres casses, pour pouvoir imprimer sur des formats différents. Donc, les Terra Amorosa de Braque est justement un livre un peu à part. Il lui fallait avoir accès à d'autres matériaux et d'autres compétences. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, ça c'est rare, mais de temps en temps, PAB a travaillé à Paris. Et c'est au moment où il rencontre donc Hildyard. Donc les photos qu'on a datent de 1962. Je ne sais pas s'ils se sont rencontrés après à plusieurs reprises, mais voilà. On a un témoignage, en tous les cas, photographique de cette rencontre et de ce travail ensemble à
et
Paris.
L'histoire a continué après la mort d'Ilias en 75, puisqu'on a des traces de dommages rendus par Pab à Ilias, parce qu'il admirait Ilias. Modèle, on va pas utiliser ce mot-là, mais c'est...
Oui, c'est ni son modèle, ni son mentor, mais c'est quelqu'un dont il appréciait le travail, comme beaucoup de bibliophiles. Voilà, Ilias, c'est quand même un des grands noms de la bibliophilie du XXe siècle. Donc, voilà, je vais laisser Françoise, sinon je vais manger tout ton temps.
Alors, Françoise Nicole, vous connaissez bien Ilias. Ou pas tant que ça?
Pas tant que ça, au départ. C'est-à-dire que je connaissais Ilias par Georges Braque, dont je suis davantage spécialiste, puisque Ilias avait publié un livre de poèmes de lui-même, « Sentence sans parole » en 1961, et qu'il avait demandé à Braque d'illustrer en quelque sorte, d'apporter en tout cas une gravure dans ce livre. Et ce livre, cette gravure plutôt représentait une couronne de fleurs, la ronde des amis. C'est ça aussi, la couronne de fleurs. C'est ces gens qui se connaissent, ces artistes qui travaillent ensemble et qui restent fidèles les uns aux autres des vies et des œuvres du rang. Mais je n'en savais pas beaucoup plus à l'époque où ce livre, « Sentence sans parole », avait été présenté dans l'exposition au Braque, ici en 2023. Là-dessus, Carolisa a... Elle tenait à ce que se fasse une exposition Ilias qu'elle m'a confiée en tant que commissaire. Mais là, mon travail était assez différent. Il s'agissait d'entrer dans un champ que je connaissais bien, le champ artistique, le champ des livres d'artistes, etc. Mais sans être spécialiste du sujet. Donc, je me suis entourée des spécialistes qui, aujourd'hui, peuvent aborder cette question. Ils ne sont pas tous dans l'équipe, en quelque sorte. Seuls quelques-uns ont travaillé avec nous. Mais leur place est très importante. Il y a d'abord une association qui s'appelle l'Ilias de Club et qui travaille à faire connaître, par la recherche et par les expositions, le soutien aux expositions, en tout cas l'œuvre d'Ilias, et qui publie une revue qui sera en vente au musée, les carnets de l'Ilias de Club, qui regroupe toutes les recherches qu'on peut faire, qui sont des recherches pas faciles, puisqu'Ilias est géorgien, il écrivait en russe, il était poète, mais ses poèmes sont en russe, donc il faut des traducteurs, il faut des personnes qui connaissent des univers culturels qui ne sont pas très familiers aux Français, en particulier la Géorgie. Et puis, il faut travailler, il faut ouvrir des archives qui sont à la Bibliothèque nationale de France, qui sont extraordinairement bien rangées par Ilias lui-même, des correspondances, des maquettes de livres, des livres eux-mêmes. C'est...
Et puis
on tombe là-dedans.
La diversité de ses actions, en fait, il s'intéressait à tout cet homme.
Oui.
Il était à la fois intellectuel, aussi manuel, marcheur, architecte. Enfin, il a vécu de quelle année à quelle année?
De 1894 à 1975.
Et il a vécu la plus grande partie de sa vie en France?
Il est arrivé en France en 1921.
Oui, après la révolution russe.
Oui, alors, il était à Moscou à la fin de l'Empire des Tsars. Il était étudiant à Moscou, lui qui venait de Tiflis, qui est l'actuel Tbilissi, la capitale de Géorgie. Donc, il était à Moscou, à Saint-Pétersbourg et Moscou, juste avant la révolution. Il aurait pu s'y trouver, à la limite, en 1917, mais il avait fini ses études. Il est rentré en Géorgie. Il avait là-bas participé très très activement et même
très engagé
à l'avant-garde russe, à ce qui était en train de prendre le nom de futurisme, et en grande partie grâce à lui. Il connaissait tous les artistes, les Russes circulaient beaucoup entre la Russie et la Géorgie. Mais en 1917, ses études étaient finies, il est rentré en Géorgie. Et là, un professeur d'université à Tiflis lui a proposé de participer à une exposition archéologique. Ce n'était pas la première fois, d'ailleurs. Et il était montagnard, il était passionné, curieux des civilisations anciennes. Et le voilà embarqué dans une expédition à la recherche d'églises chrétiennes, géorgiennes, mais aussi arméniennes, au sud de la mer Noire et dans le Caucase. Et il a pris le rôle de dessinateur, il dessinait les plans des églises, ce qui voulait dire reconstituer des églises qui étaient en ruine.
Ce qui explique qu'il y a une salle justement sur lui, architecte, les églises, la minutie, le papier millimétré, et puis le témoignage, puisque après il y en a beaucoup qui ont disparu. Donc,
c'est ça.
Et alors là, de là en France,
son père était professeur de français. Son frère Kirill, qui était son frère aîné, qui était peintre, donc il était très proche, était déjà venu en France, où il avait fait les Beaux-Arts à Paris. Donc il avait des liens privilégiés avec la France. Mais il l'a entendu parler, là on est entre 1917 et 1920, il est à Tbilissi, Tiflis, il a entendu parler du dadaïsme, il a commencé, il a des liens avec les artistes de partout. Et il a envie de participer au mouvement Dada. Et pour cela, il décide d'aller en France. Sauf que la situation politique de la Géorgie se trouble à ce moment-là. Elle a été très peu de temps une république. Bientôt, elle sera absorbée par l'Empire soviétique. Et il a du mal à avoir un visa. Et donc, il est bloqué pendant un an à Constantinople. Il en profite pour faire d'ailleurs des plans de mosquées qui sont d'anciennes églises. Oui. Et puis, il arrive qu'en septembre 1921... à Paris, et il passe tout le reste de sa vie en France.
Il parlait déjà français.
Il parlait français, oui.
Mais il n'a jamais écrit en français, il a toujours écrit en russe.
Toujours.
C'est son attachement, son...
Oui.
Et puis alors là, il rencontre, et quand on visite l'exposition, on voit les plus grands noms des artistes, c'est incroyable. Alors, l'amitié particulière avec Picasso, mais il y a Max Ernst, il y a Miro, et puis il cherche, il découvre, c'est aussi un homme très très curieux.
Très curieux.
Hein, Adrien de Montluc, c'est ça, je ne me trompe pas.
Oui.
C'est extraordinaire cette façon de travailler. Alors, il y a une très belle affiche, je passe de Miro à l'affiche, parce que Hilliard n'est pas très connu, mais l'affiche, je crois, va vraiment attirer l'œil, et c'était un peu le but, c'est de faire connaître cet artiste. Vous avez dit qu'il n'y a pas eu de grande exposition sur lui depuis 1978.
Oui, il y a eu des expositions plus modestes, mais les rétrospectives, il n'y en a pas une en France.
Et celle-ci est extraordinaire. Et puis, comme nous l'a exposé Carole, il y a des couleurs, et ces couleurs ne sont pas anodines. Et elle est tirée d'un... Je vous avais ouvert la page devant moi, donc je vous la laisse commenter.
Oui, elle est inspirée, cette affiche qui est dans les rouges et tout en rondeur, d'un ce qu'on appelle un tableau typographique, c'est-à-dire une composition faite avec des éléments d'une casse dans un atelier de typographie, c'est-à-dire des lettres, bien sûr, mais aussi des petits ornements, des étoiles, des choses comme ça, avec lesquels, et puis il y a des aplats de couleurs, et avec des aplats de couleurs, des lettres disposées sur une page, des ornements typographiques, Ilias compose, alors c'est en 1919, une page dans une revue pour présenter un de ses premiers livres qui s'appelle « L'âne à louer ». Et c'est cette belle affiche qui est présente dans le catalogue qui nous a inspirés.
Donné l'idée.
Et qui a donné l'idée aux graphistes qui ont travaillé avec nous.
Et puis les couleurs, puisqu'il y a des salles rouges, comment vous l'avez appelé, orange,
oui, orange, moutarde.
Moutarde, enfin, bleu, voilà. Il n'y a pas le vert.
Et il manque le vert,
ouais.
Je suis bien d'accord. Mais bon, il fallait... Donc, en fait, il y a tout un jeu de couleurs dans l'exposition qui correspond aux facettes, justement, de cet artiste.
Alors, on démarre par le vert au rez-de-chaussée à droite, puisqu'il y a sa biographie, c'est toujours intéressant. Oui. Il y a ses livres, il y a ses photos. Et on est immergé, vraiment, et on a envie de le découvrir. Hein. C'est un...
J'espère.
Oui, mais moi, j'ai bien découvert, pas à pas, salle par salle. Alors, on ne pourra pas, bien sûr, dans le format de cette émission, parler de tout. Le but, c'est que les auditeurs aient envie de venir. Et avant de passer un peu de salle en salle, on va écouter une musique géorgienne, puisqu'il a toujours parlé russe, même s'il parlait français. Il a écrit en russe. Moi, j'ai envie de vous demander, pour vous... Il est surtout quoi ? Il est surtout un poète ? Il est surtout un artiste ? Il est surtout un typographe ?
L'exposition s'appelle « Poète, architecte du livre ».
Voilà. Donc vous
architecte au sens propre, c'est-à-dire concepteur, le concept d'un livre, comme il y avait eu le concept des églises quand il était sur le terrain. et puis maître d'œuvre, puisqu'il composait lui-même dans une imprimerie parisienne qui s'appelait Union, qui est mythique et qui était tenue par des Russes, ce qui explique comment il a pu entrer dans cette imprimerie.
Et il y a cette pièce majeure que vous nous avez montrée, qu'il ne faut pas rater dans la dernière salle.
Non, alors il est un peu fatigué, on arrive à la fin, on a vu plein de choses.
Oui, mais c'est important, je vous le laisse expliquer.
C'est ce qui s'appelle une forme typographique, c'est-à-dire que c'est un cadre de métal qui est dans une... Qui est présente sur un pupitre oblique là, dans un atelier de typographie. Et c'est dans ce cadre de métal que le typographe compose, à partir de caractères de plomb, sa page. Et une fois qu'il a fini de composer sa page, eh bien, on renverse le cadre sur la table, tout reste à trier, on range chaque caractère dans des cases et on fait notre composition un peu plus tard. Alors que là, ce qui est magique, c'est qu'un des compagnons d'Ilias, qui est toujours vivant, qui sera présent au vernissage aujourd'hui, qui était à l'imprime Réunion, a gardé...
Intact.
Il l'a pas renversé. Ce cadre avec, à l'intérieur, la composition d'une page extraordinaire d'Ilias, qui a essayé de composer donc une forme typographique destinée à être imprimée, bien sûr, comme une lettre qui avait été écrite par Picasso, qui était dans tous les sens, qui n'était pas droite, etc.
Et qui est affichée au-dessus,
dans un livre sur un grand graveur parisien qui était un ami d'Ilias, qui s'appelait La Courrière.
Alors sur Radio Alliance Plus, nous continuons cette visite, je dirais virtuelle, avec vous, Françoise Nicole. Merci beaucoup de votre enthousiasme. Et il faut vraiment venir voir cette exposition. On a jusqu'au 31 octobre. Il faut la venir deux fois parce que Carolisa nous a expliqué que dans une salle, il y aurait interversion des objets, puisque souvent on ne prête que pour 3 mois. C'est vrai que là, on parlait de logistique, c'est toute une logistique. Alors, si on a parlé de la première salle, hein, qui est la biographie, etc., La deuxième salle,
ce sont des portraits d'Ilias. La troisième salle fait référence à des sujets qui l'intéressaient, dont l'architecture des églises. En fait, c'est tout le rez-de-chaussée qui est destiné à perdre un peu le public, mais gentiment. En fait, à lui dire, non mais vous vous rendez compte à qui vous avez affaire, quel est cet artiste, mais finalement, qui est cet artiste qui a été représenté par les plus grands peintres de son temps, qui est allé faire des expéditions archéologiques dans le Caucase, qui fait l'objet aujourd'hui d'une véritable grande activité de recherche, mais pas en France, enfin si, en France, heureusement, en grande partie, mais je veux dire, du point de vue du grand public, il n'est pas très connu en France, comme vous l'avez dit, alors qu'il y a évidemment en Géorgie, en Russie, il est très très connu comme poète, Et puis, dans d'autres pays du monde, il y a une exposition en ce moment à Bolzano en Italie, il y en a eu une récemment à Malaga, au musée Picasso en Espagne, il y a eu des grandes expositions à New York, au musée de San Francisco, au Canada, etc. Il est connu là plutôt comme architecte du livre.
Et là, au TAB, on a une occasion.
Et là, on a les deux. Parce qu'il a fallu du temps à la recherche pour comprendre. Les hommes parlaient toujours du poète dans le monde slave et en Géorgie. Les autres, plutôt dans le monde européen occidental, parlaient plutôt des livres d'artistes. Mais il fallait relier les deux. Et tant que les traducteurs n'avaient pas bossé, c'était pas possible. On est à un moment de l'histoire aussi où on peut comprendre que c'est le même homme qui est poète et qui est éditeur.
Alors, on monte au troisième étage avec cette belle salle sur le poète.
Au deuxième, pardon.
Carole l'a dit, on peut virtuellement voir se tourner les pages, puisqu'on est toujours frustré de ne jamais plus tourner les pages. Mais là, il faudrait les déplier, il faudrait les interter. Et puis, il y a une dernière salle, enfin, il y a encore plein d'autres salles, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, mais on est vraiment dans la découverte, dans la curiosité, on a envie de voir de près, on a envie de... C'est vrai, vous avez pris beaucoup de plaisir,
Ah oui, ça fait 2 ans qu'on travaille, mais on a pris beaucoup de plaisir. En fait, on aimerait que le public ne se décourage pas, ne se complexe pas non plus, il ne connaît pas Elias, ben c'est assez normal.
Vous l'avez dit au début, hein, voilà. Si vous ne connaissez pas, c'est normal.
C'est normal, et qu'il puisse picorer.
Oui.
Ramasser en disant tiens ça m'amuse, je vais écouter du son, je vais écouter du zaoum, la langue.
Oui, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais on va en écouter un petit peu.
Inventée par Ilias.
Ошшап, жугела, хопри, безногою, бугаю, халєри, гопли, гопка, жуду, ямбам, бибубірі, нажужаться, пазія. Puisca, parhuratil, jmajem, jmajem, jem, jem, jli, pavipil, capajnaya, lujku, ravšič, hurčit, ačaja, ludoju, jučuči, lhavjati, turaka, in lobi, lobi, glil, Маркоза, Зацо, Вейни, Захфашли, Мяу, Мяу, Набукут, Букут, Животы, Гравица, Бежная, Мерчит, Ашровы, Осны, Прокш, Дук, Дук, Пучурук, Татая, Йокш, Вовш, Довш, Угаготны, Рирьелы, Світель, м'яти, боньти, жабури, чуяя, башба, бстбжокш, аніна, іна, окш, ія.
Je vais juste regarder un des 3 artistes qui sont le plus valorisés dans l'expo et qui sont Picasso, Miro et Max Ernst. Mais je vais peut-être aussi m'arrêter ailleurs et devant une statue africaine ou devant n'importe quel livre
et puis des découvertes, des choses. Adrien de Montluc.
Adrien de Montluc est un gentilhomme du 17e, 16e, 17e siècle et qui a été redécouvert par Ilias. Donc on peut s'amuser en fait. Il faut venir légèrement.
Picorer, j'ai bien aimé ce mot, picorer.
Si ça plaît, on revient.
On revient, bien évidemment.
Après, on lit les panneaux et tout ça, mais on n'est pas obligé.
Ou on achète le catalogue.
On achète le catalogue.
Merci beaucoup, Françoise Nicole, de cette belle présentation, dynamique, joyeuse. Et auditeurs, venez au pub.
Merci beaucoup à vous.
Merci.
Vous pourrez retrouver Françoise Nicole le dimanche 7 juin à 15h pour une visite. Le Zaoum prend vie devant les livres d'Ilziade. Ce sera avec André Markovitch, mais il y aura aussi beaucoup d'autres ateliers. En attendant de vous les énoncer, nous réécoutons Carole Isa pour nous expliquer l'affiche et les nouveautés dans cette exposition.
L'expo, c'est Ilziade et montrer tout ce qu'il a fait avec plein de gens. Mais oui. C'est quand même Ilziade le cœur du propos.
Comme Fab.
Donc c'est pour les Fab, c'est plus facile parce qu'il a fait des œuvres. Fab, il a peint, il a fait des sculptures. Donc quand on veut faire une expo Fab, on prend une œuvre de Fab et on fait une citation de Fab. Ilias, il n'a pas dessiné et peint comme Pab. Donc c'était un petit peu plus subtil de faire une affiche où il restait le cœur du propos et que c'était Ilias, le pilier central, la colonne vertébrale, sans, donc on ne voulait pas dénaturer le propos de l'expo et en même temps on voulait trouver quelque chose qui graphiquement marche pour donner envie aux gens. La grande frustration du visiteur quand il vient voir une exposition de livres, d'artistes, c'est qu'il ne peut pas tourner les pages. Et bien donc nous avons fait réaliser des films et Laetitia a fait les montages. Je salue aussi son travail pour les montages de films pour pouvoir finalement tourner les pages du livre de manière virtuelle. Et donc on a, voilà, donc vous savez qu'ici on n'est pas sur le high-tech et le tout numérique parce qu'en fait on perd le contact avec l'œuvre, avec le livre, avec la poésie. Et puis si on fait tout numérique, en fait on peut rester chez soi et regarder une exposition virtuelle. Donc l'intérêt de venir au musée c'est d'être en contact avec les œuvres évidemment. Mais néanmoins, il y a quelques petits éléments du 21e siècle qui peuvent nous aider à faciliter la visite et l'accessibilité aux objets, aux visiteurs. Et donc voilà, là on a fait un effort sur cette partie-là pour cette exposition et j'espère que vous saurez l'apprécier.
L'autre nouveauté, c'est que vous ne monterez pas au dernier étage.
Non.
Et que tout se passe entre le rez-de-chaussée et le premier. Et du coup, que Pierre-André Benoît ne se trouve pas au début de la visite, en tout cas, puisqu'on commençait, les gens montaient au dernier étage.
Et non, mais il se trouve
à la fin.
Pour profiter au mieux de cette exposition, il y a des visites guidées adultes et il y a également des visites enfants et familles avec des ateliers typographie, typo-art, cartes postales, des activités pour le jeune public, un concours. Et je vous conseille d'aller soit sur le site www.museepab.fr, soit vous renseigner au 04 66 86 98 69 pour vous inscrire aux activités ou sur le mail museepab@alesaglo.fr. Bonne visite et bonne découverte de l'exposition Ilias au Pab.